VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, sommaire de cette édition du mardi 14 février 2023. La républicaine Nikki Haley, candidate à la présidentielle américaine de 2024. L'ONU déplore l'aggravation de la répression en Tunisie. La Guinée équatoriale sonne l'alerte sur la fièvre de Marburg qui a fait 9 morts dans le pays. L'OMS se réunit d'urgence. Arrivée d'un deuxième convoi d'aide de l'ONU dans les zones rebelles syriennes après le séisme. Les amoureux célèbrent aujourd'hui la fête de la Saint-Valentin.
Beaucoup de mes copines ont rencontré leur âme sœur sur les réseaux sociaux et se sont mariées aussi. C'est possible de rencontrer son âme sœur sur les réseaux sociaux.
Dans la partie magazine, nous irons à Bamako vivre quelques idées à l'africaine dans un reportage de Mohamed Danyoko. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. On commence par l'actualité américaine. La républicaine Nikki Haley a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle américaine de 2024. Elle devient la première candidate notable à défier l'ancien chef d'État Donald Trump. Les détails avec Nani Talani.
Je suis candidate à l'élection présidentielle, a déclaré l'ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU dans une vidéo à ses partisans ce mardi. Il est temps pour une nouvelle génération de dirigeants de redécouvrir la responsabilité fiscale, de sécuriser notre frontière et de renforcer notre pays, notre fierté et notre raison d'être, a-t-elle ajouté dans la vidéo tournée à Bamberg, sa ville natale en Caroline du Sud, État dont elle a été gouverneur. Elle se positionne comme un acteur de changement capable de revigorer un parti et un pays qui, selon elle, se sont égarés ces dernières années. Cet enfant d'immigré indien met en avant son expérience personnelle comme un moyen d'unir une nation tendue par les tensions raciales. J'étais la fière fille d'immigrants indiens, pas noire, pas blanche. J'étais différente, mais ma mère disait toujours « Votre travail n'est pas de vous concentrer sur les différences, mais sur les similitudes », a-t-elle martelé. Nikki Haley, 51 ans, se présente comme une alternative plus jeune et plus fraîche face à l'ancien président Donald Trump, âgé de 76 ans. Ce dernier n'a pas encore réagi à l'annonce de Nikki Haley.
Nikki Haley doit présenter son programme mercredi lors d'un discours à Charleston, en Caroline du Sud. Dans l'actualité américaine, toujours un assaillant a ouvert le feu lundi soir sur le campus de l'université de Michigan State, faisant 3 morts et 5 blessés, a rapporté la police locale, indiquant par la suite que l'assaillant qui aurait agi seul s'était donné la mort. Un responsable de la police universitaire a déclaré que des coups de feu ont été tirés dans 2 bâtiments distincts. Sur le continent, la Commission de l'Union africaine a annoncé aujourd'hui l'envoi d'une mission d'observation de 90 personnes au Nigeria pour les élections présidentielles et parlementaires. La mission des élections de l'Union africaine sera dirigée par l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta. Près de 100 millions de Nigérians sont appelés à voter le 25 février pour choisir un successeur au président Muhammadu Buhari qui se retire après 2 mandats comme prévu par la Constitution, de nouveaux députés et des sénateurs. Le 11 mars, les électeurs sont appelés à choisir des gouverneurs et des membres d'assemblées locales. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a dénoncé ce mardi l'aggravation de la répression en Tunisie après plusieurs interpellations ce week-end de militants politiques, d'anciens magistrats et d'un influent homme d'affaires, Claire Morin-Gibou.
Depuis samedi, au moins 9 personnes, dont d'anciens fonctionnaires, auraient été arrêtées et certaines détenues pour des accusations liées à la sécurité ou de corruption, a déclaré le porte-parole de M. Türk. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme exprime sa préoccupation face à l'aggravation de la répression contre ceux qui sont perçus comme des opposants politiques et de la société civile en Tunisie, a-t-il ajouté, précisant que les mesures prises par les autorités continue de saper l'indépendance du pouvoir judiciaire. Après le coup de filet du week-end dernier, un chef du parti tunisien islamo-conservateur Ennahda et le directeur d'une radio privée ont été arrêtés hier soir. Le haut commissariat appelle les autorités tunisiennes à respecter les normes de procédure régulière et de procès équitable et à libérer immédiatement toutes les personnes détenues arbitrairement, y compris toute personne détenue en relation avec l'exercice de ses droits à la liberté d'opinion ou d'expression.
Dans l'est de la Guinée équatoriale, 9 personnes sont mortes en un mois de la maladie à virus de Marburg, une fièvre hémorragique presque aussi meurtrière qu'Ebola. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
La Guinée équatoriale déclare aujourd'hui l'alerte sanitaire pour une fièvre hémorragique de Marburg dans la province de Nikintem et dans le district voisin de Mongomo. C'est l'annonce faite par le ministre de la Santé, Mitoha Ondo Ayekaba, ajoutant que 4325 personnes sont en quarantaine dans cette province. D'après lui, les décès ont eu lieu entre le 7 janvier et le 7 février. Il a ajouté que des prélèvements après une mort suspecte le 10 février à l'hôpital sont aussi analysés. Le ministre équato-guinéen de la Santé assure que, pour l'heure, seules 3 personnes présentant des symptômes légers de la maladie sont à l'isolement dans un hôpital de cette zone frontalière avec le Gabon et le Cameroun. L'OMS a annoncé ce mardi une réunion d'urgence du consortium dit Marvac qui promeut la collaboration internationale pour le développement de vaccins contre le virus de Marburg. Ce virus se transmet à l'homme par les chauves-souris frugivores et se propage dans l'espèce humaine par contact direct avec les fluides corporels des personnes infectées ou avec les surfaces et les matériaux. La maladie commence de façon soudaine avec une forte fièvre, des céphalées intenses et un malaise.
8 corps ont été repêchés ce mardi sur le lac Kivu, 3 jours après la collision entre un bateau et une pirogue motorisée dans l'est de la République démocratique du Congo. Le ministre des Transports de la province du Sud Kivu a précisé que leur pirogue avait été percutée samedi par un gros bateau de transport de passagers dans le port de Bukavu, la capitale provinciale. Pour le ministre, la surcharge de l'embarcation en bois et le non-port de gilets de sauvetage par les passagers sont à l'origine du drame. En Afrique du Sud, 20 personnes ont été tuées, une soixantaine blessées dans une collision entre un bus et un fourgon blindé, a indiqué ce mardi le département des transports de la province de Limpopo. L'accident s'est produit lundi sur une route nationale à la frontière avec le Zimbabwe. Une équipe de plongeurs de la police mène actuellement des recherches pour retrouver des personnes qui auraient pu être emportées par les eaux.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Washington, Berlin, Paris, Rome et Londres se disent fermement opposés aujourd'hui à la décision d'Israël de légaliser 9 colonies en Cisjordanie occupée et de projeter de nouveaux logements dans les colonies existantes qui ne fait qu'accroître les tensions entre Israéliens et Palestiniens. Nous nous opposons fermement à ces actions unilatérales qui ne font qu'accroître les tensions et qui nuisent aux efforts visant à parvenir à la solution négociée des deux États, écrivent les chefs de la diplomatie des 5 pays dans cette déclaration commune. Une délégation de l'ONU est entrée aujourd'hui pour la première fois depuis le séisme meurtrier dans les zones rebelles du nord-ouest de la Syrie. Son objectif est d'évaluer les besoins de ces régions durement affectées par le tremblement de terre et difficiles d'accès à cause de la guerre. Le point avec Abdourahmane Dia.
La délégation onusienne est entrée par le poste frontière de Bab al-Hawa avec la Turquie, alors que la lenteur de l'arrivée des aides internationales a été critiquée par les secouristes et les militants locaux. Elle s'est entretenue avec des responsables côté syrien du poste frontière, jusque-là seul point d'entrée de l'aide aux régions sous contrôle rebelle. La délégation s'est ensuite rendue dans un centre du programme alimentaire mondial à Sarmada avant de se réunir avec des responsables locaux. Militants et secouristes du Nord-Ouest ont dénoncé la lenteur de la réaction onusienne après le séisme dans les zones tenues par les rebelles, pointant le contraste avec l'aide humanitaire acheminée par des avions qui ont atterri sur des aéroports contrôlés par Damas. Martin Griffiths, le secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires humanitaires, avait reconnu que l'ONU avait jusqu'à présent fait défaut aux gens du Nord-Ouest de la Syrie qui se sentent à juste titre abandonnés. Le séisme d'une magnitude 7,8 qui a secoué le 6 février la Syrie et la Turquie a fait plus de 35 000 morts, dont plus de 3 600 en Syrie.
Le secrétaire général de l'ONU a lancé aujourd'hui un appel d'urgence aux dons de près de 400 millions de dollars pour aider les populations victimes du séisme en Syrie pendant 3 mois. Il a appelé tous les États membres à financer totalement et sans délai cet appel aux dons pour garantir une aide humanitaire dont près de 5 millions de Syriens ont désespérément besoin, dont des abris, des soins médicaux et de la nourriture. Un tremblement de terre de magnitude 5,6 s'est produit ce mardi dans le sud-ouest de la Roumanie et a été ressenti jusqu'à Sofia et à Belgrade. Le séisme qui n'a pas fait de victimes s'est produit dans la province de Gorj. L'Institut sismologique américain fait état d'une profondeur de 10 km sur son site internet. C'est le deuxième jour consécutif que la Roumanie est touchée par une secousse de magnitude importante. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
En Égypte, l'autorité du canal de Suez annonce la modification d'une surtaxe à 25% des droits de transit normaux sur les pétroliers chargés et à 15% sur les pétroliers vides à compter du 1er avril, selon une circulaire publiée ce mardi. Ces redevances supplémentaires seront temporaires et pourront être modifiées ou supprimées en fonction de l'évolution du marché du transport maritime, précise la circulaire. La société minière britannique Gemfield annonce vouloir suspendre des activités d'exploration de rubis à la suite d'une attaque à quelques kilomètres d'un de ses sites dans le nord du Mozambique, en proie à des violences djihadistes depuis plus de 5 ans. Sa mine de Montepuez, dont l'activité n'a pas été affectée, est l'un des plus grands gisements au monde de la pierre précieuse. Terminons par la demande mondiale de pétrole qui augmentera cette année de 2,32 millions de barils par jour, soit 2,3%, indique ce mardi l'Organisation des pays exportateurs de pétrole dans un rapport mensuel. La clé de cette croissance sera l'assouplissement des restrictions chinoises liées au COVID-19 et des perspectives légèrement plus solides pour l'économie mondiale, selon l'OPEP.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacou.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Huitième de finale aller en Ligue des Champions ce soir en Europe.
Oui, englué dans une série de mauvais résultats, le PSG affronte le Bayern Munich au Parc des Princes. Depuis la reprise des compétitions après le Mondial 2022, Paris s'est incliné à 4 reprises. Toutefois, le retour de Kylian Mbappé redonne de l'espoir aux Parisiens. Outre Mbappé, le PSG a aussi récupéré 2 autres éléments qui peuvent modifier le rapport de force. Lionel Messi et Marco Verratti, forfait à Monaco sur blessure, et Presnel Kimpembe, qui a lui aussi terminé avec ses problèmes au tendon d'Achille. Côté Bayern Munich, on note des blessés et pas des moindres, le portier allemand Manuel Neuer, le Sénégalais Sadio Mané ou encore le Marocain Nusayir Mezraoui.
AC Milan-Tottenham, c'est l'affiche de l'autre deuxième huitième de finale de ce soir.
L'AC Milan et Tottenham partagent une ultra-dépendance de leur avant-centre, Olivier Giroud et Harry Kane. Face à face, 2 mois après leur duel épique au Mondial 2022, les Italiens ont enchaîné 7 matchs sans succès, toutes compétitions confondues. Mais la série infernale a pris fin vendredi contre le Torino 1-0, grâce évidemment à un but décisif de Giroud, son 7e en Serie A. Harry Kane s'est remis de son Mondial et a relancé son club à l'assaut de la Premier League. Tottenham dépend grandement de ses buts. L'avant-centre de 29 ans porte littéralement les Spurs avec 17 buts en 23 journées.
Un rapport épingle l'UEFA et les autorités françaises dans l'affaire des incidents au Stade de France.
L'UEFA, organisatrice de la finale de la Ligue des Champions, porte la responsabilité première des graves incidents qui ont quasiment mené au désastre en mai dernier au Stade de France lors de la finale entre Liverpool et le Real Madrid. C'est la conclusion d'un groupe d'experts au terme d'une enquête indépendante mandatée par l'instance européenne. Le document épingle aussi la préfecture de police et la Fédération française de football. Attente interminable, supporters et familles aspergées de gaz lacrymogène ou victimes de vol. Le dispositif de maintien de l'ordre lors de cette finale de la Ligue des Champions à Saint-Denis avait donné lieu à des scènes de chaos provoquant une vive polémique en France et en Angleterre.
NBA Denver en contrôle à Miami, toujours pas de victoire pour Irving Doncic.
Oui, leader incontesté à l'Ouest, Denver a gagné au forceps à Miami 112-108 grâce à Nikola Jokic, 33 points et 12 rebonds. Pour leur deuxième match sous le maillot des Mavericks, Kyrie Irving et Luka Doncic n'ont toujours pas gagné, battus vendredi à Sacramento. Ils ont encore été défaits à domicile cette fois par Minnesota 124-121. Golden State a pris le dessus sur Washington 135-126. Toujours dans la lutte pour les playoffs, les Lakers ont encore perdu 127-115 face à un concurrent direct, Portland, 11e. Damien Lillard, 40 points, a été le bourreau de LA enfoncé au 13e rang. À l'Est, Philadelphie a enchaîné un 3e succès d'affilée aux dépens de Houston, 123-104. Cleveland a battu San Antonio, 117-109. Au Madison Square Garden, New York a remporté le derby contre Brooklyn, 124-106.
page de sport VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. La républicaine Nikki Haley, ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU, s'est lancée dans la course à la Maison-Blanche en 2024. Elle en a fait l'annonce ce mardi, devenant la première candidate notable à défier Donald Trump. L'annonce de l'ancienne diplomate nommée à l'ONU en 2017 par l'ancien président était pressentie depuis plusieurs semaines. Comment d'autres républicains réagissent à la candidature de Nikki Haley? Nani Talani a joint Junior Bonpetit, fondateur de Congolese for Trump, qui soutient la candidature de l'ancien président Donald Trump à Dallas dans l'État du Texas.
C'est une bonne nouvelle hein, pour nous. Nous avons besoin de plus de leadership émerge dans notre pays en général et surtout dans le Parti républicain. Ce n'est vraiment pas du tout une surprise. Ça peut être une bonne surprise, je veux dire. Mais c'est des bonnes guerres. Hein. Les États-Unis, c'est un pays de démocrates. La démocratie, vous voyez, chacun est libre de ses ambitions. Nous ne pouvons pas mettre le monopole à une seule personne. Même si le leadership du président Donald Trump n'est plus à démontrer. Vous voyez, alors vous pouvez être collaboratrice et puis demain ramener une nouvelle option. Et nous sommes tout à fait d'accord, nous l'encourageons. C'est de bonnes guerres. Au choc d'idées, jaillit la lumière et nous avons besoin de la crème des crèmes pour gagner les élections en 2024. Quoi. Donc la candidature de Nikki Haley est la bienvenue et le maire gagne, l'emporte.
Vous parlez de leadership féminin. Qu'est-ce qu'elle peut apporter de plus?
Elle a été d'abord congresswoman et tout ça. Elle a battu un congressman qui était là depuis des années, en 2004. Et puis après, je crois de 2011 à 2017, il a été gouverneur. Et puis après, elle a été nommée comme ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies. Donc elle a un bon parcours. Ouais, nous avons besoin de cette touche féminine. Nous avons besoin de ce cœur de femme, de mère. Nous avons vraiment besoin de ça pour l'équilibre. Vous savez, généralement, nous les hommes, parfois, nous sommes cartésiens, mais nous avons besoin de cet apport féminin. Et Nikki Haley est la personne, elle a les portraits, elle a des valeurs, elle a les compétences pour jouer ce rôle.
Alors, vous parlez de ses compétences, de sa jeunesse, de tout ce qu'elle a fait, son expérience, mais au sein du Parti républicain, elle va certainement s'affronter aux trumpistes. Quelles sont ses chances de gagner contre ces trumpistes-là?
Il y a beaucoup de gens, nous-mêmes, nous sommes fondateurs de Congolese for Trump, nous croyons au leadership de Donald Trump. Vous savez, il n'y a pas de leader sans collaborateur. Vous voyez, Nikki Haley a été une très bonne collaboratrice de Donald Trump. Alors, elle n'a qu'à se battre, elle n'a qu'à chercher des gens à présenter ses politiques, sa vision. Elle aura certainement des gens qui vont la soutenir, mais c'est les maires qui gagnent, hein, vous voyez. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes Donald Trump ou vous êtes Nikki Haley et qu'on va vous voter. Donc, c'est plutôt séduire, gagner ses fans, gagner ces républicains-là par votre nouvelle vision que vous apportez sur la table pour le pays. Donc, les champs sont libres, hein, vous savez, dans la politique, rien n'est gagné d'avance. Vous voyez, donc il faut qu'elle fasse ses preuves. Moi, je l'encourage énormément et nous encourageons aussi d'autres femmes de la minorité. Et vous savez, moi-même, je suis sorti de la minorité. Elle est de la minorité indienne et tout ça. Nous avons vraiment besoin de cette émergence parce que l'Amérique, c'est un pays des rêves ou un pays d'opportunités. Nous avons vu Barack Obama devenir président des États-Unis, lui qui est issu d'une famille d'un père immigrant. Vous voyez, donc c'est vraiment l'image, l'émergence de Nikki Haley va donner le rêve à nos enfants qui sont nés ici, à nos jeunes filles, et nos sœurs qui grandissent ici, issues de l'immigration. Donc nous avons vraiment besoin de ces symboliques-là, de ces modèles-là.
C'était Junior Bonpetit, fondateur de Congolese for Trump, qui soutient la candidature de l'ancien président Donald Trump à Dallas, dans l'État du Texas.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Nigeria, les électeurs se préparent pour se rendre aux urnes ce 25 février 2023 pour élire leur prochain président, un scrutin qui se tient dans un contexte de mécontentement croissant dans le pays. L'insécurité et la grave crise économique sont les principaux enjeux de cette élection jugée cruciale. Le point avec Gilbert Tamba à Abuja.
De l'avis de beaucoup d'experts, la présidentielle du 25 février est sans doute l'élection la plus importante depuis le retour à la démocratie du Nigeria en 1999. Et c'est pour diverses raisons, la première étant d'ordre sécuritaire. Et sur ce point, le sentiment d'insatisfaction est largement partagé. Témoignage.
As regards the insecurity, some of us are seriously astonished.
Concernant la question de l'insécurité, certains comme moi sont sérieusement étonnés. Étonnés dans le sens que le Nigeria est une nation souveraine et vieille de plus de 50 ans et il semble qu'il n'y aura aucun progrès à tous les niveaux de la vie. Sur le plan social, économique, politique et religieux, rien n'est satisfaisant. Au contraire, nous reculons.
Je pense qu'il y a de nombreux acteurs impliqués dans ces attaques. Pour le moment, nous ne pouvons pas confirmer. Mais selon des informations, tout ce qui se passe a des liens avec la politique et des agitations de certains sécessionnistes en fonction de l'endroit où les attaques se produisent.
Le Nigeria traverse aussi une grave crise économique et d'autres problèmes comme la corruption endémique qui sévit dans le pays le plus peuplé d'Afrique. L'inflation a connu une hausse pendant 10 mois en 2022, se repliant tout juste à 21,3% selon les derniers chiffres publiés en janvier 2023. De nombreuses familles nigériennes ont du mal à joindre les débuts. Lucie David est étudiante à l'université d'Abuja.
Je connais les difficultés que le Nigeria traverse en ce moment, et surtout pour la jeunesse. Et nous sommes dans cette situation depuis très longtemps. D'autres ont dirigé ce pays et le pays va de mal en pis. Si vous regardez très bien, vous verrez que les mêmes gens qui étaient là avant reviennent encore. Pourquoi ne pas essayer quelque chose de nouveau?
C'est la plus grande démocratie du continent africain. Le chef de l'État sortant, Muhammadu Buhari, 80 ans, ne se représente pas à l'issue de 8 années d'une présidence marquée par une crise à la fois sécuritaire, économique et sociale. Les Nigériens qui aspirent à un changement au sommet de l'État étalent leurs arguments. Aval Moussa Rafsanjani, activiste nigérien et directeur du CISLAC.
Premièrement, c'est de se rassurer que le pays continue d'exister parce qu'il y a trop de désorganisation, de frustration et de violence. Donc vous devez faire tout ce qui est possible pour réconcilier les gens. Deuxièmement, il faut faire face à la question.
Le chômage est également un autre problème majeur, alors que le Nigeria est un des plus importants producteurs de pétrole du continent. 4 Nigériens sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté et manquent d'éducation et d'accès aux infrastructures de base, telles que l'électricité, l'eau potable et des installations sanitaires améliorées, selon la Banque mondiale. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Au Gabon, majorité et opposition ont entamé les discussions pour des élections transparentes et apaisées. Le pays prépare 3 scrutins cette année, dont la présidentielle au mois d'août. Il sera immédiatement suivi des législatives et des municipales. Alors que les débats débutent sous un climat de doute sur la bonne tenue de ce calendrier électoral, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a ouvert la concertation par une forte annonce hier devant les officiels, le retour au quinquennat pour tous les mandats électifs. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Odiangenze.
L'engagement de l'exécutif est solennel, en conviant l'élite politique de son pays à une concertation avant les élections devant le corps diplomatique et les responsables d'institutions. Ali Bongo Ondimba acte l'harmonisation des mandats électifs. Ali Bongo Ondimba, chef de l'État gabonais.
Le président de la République, le député, le sénateur, l'élu local auront tous désormais un mandat de 5 ans.
Le chef de l'État a donné le ton de la concertation ouverte lundi par les travaux en commission. Pour Gérard Elanguema du Front patriotique gabonais, parti membre de l'opposition, la classe politique doit aller au fond du débat.
C'est une question aussi de modernité, de fixer la durée de son magistère à un mandat plus un. Ça fait 2 mandats et puis on s'arrête. Donc il y aura plusieurs débats de ce genre.
10 jours pour convaincre. C'est le temps imparti aux commissaires de l'opposition et de la majorité pour produire un texte consensuel sur la réforme électorale. Florentin Moussavou, président de la plateforme Conscience et Action Citoyenne, proche du pouvoir, veut rassurer les plus sceptiques sur ce timing jugé insuffisant.
10 jours, c'est déjà beaucoup. On aurait même pu faire cela en 2 jours, 3 jours, si nous sommes des hommes de bonne composition, si nous aimons le Gabon de la même manière. Et je crois que ces 10 jours seront suffisants, à mon sens, pour avancer.
L'initiative des présentes assises est une demande de l'opposition. Elle veut imposer l'alternance au pouvoir par la voie des urnes. Laurent Anguemezu, président du Rassemblement pour le Gabon.
Moi qui suis du Rassemblement pour le Gabon, nous pensons que c'est une occasion que nous allons devoir présenter la vision que nous avons pour le Gabon afin de sortir du cycle infernal des contestations après chaque élection.
Selon le politologue Jean Delors-Biogué, l'opposition gabonaise, fragilisée par les divisions internes, part aux négociations avec cet important handicap.
L'opposition, son objectif, c'est l'alternance, c'est de gagner le pouvoir et essayer de participer activement à la justice politique. Et elle ne peut jouer ce rôle que si elle est unie. Si elle n'est pas unie, ce serait faire donc le lit à l'adversaire, qui est le parti au pouvoir et qui va trouver là, en cette concertation, une occasion de sortir avec des délibérations qui favorisent la reproduction du système.
Les délibérations de cette concertation politique attendue pour la semaine prochaine seront présentées au gouvernement avant d'être examinées par les 2 chambres du Parlement gabonais. Ismaël Obianzé pour VOA Afrique, Libreville.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Ce 14 février est consacré à la journée de l'amour. La Saint-Valentin est une occasion pour les amoureux de renouveler leurs vœux, de se faire des cadeaux. Cette fête est de plus en plus célébrée en Afrique. Avec l'avènement des réseaux sociaux, les relations se nouent de plus en plus sur ces différentes plateformes de rencontres, non sans conséquences, comme nous allons le voir dans ce reportage de notre correspondant à Bamako, Mohamed Danioko.
Dans les rues de la capitale malienne, c'est l'heure des derniers réglages en attendant l'heure de la fête et des échanges de cadeaux. Et pour les cadeaux, chacun a sa préférence. Geneva Sidibé, étudiante à HETEC.
Ma préférence est plutôt les hijabs et puis le chocolat. Plus les petites fleurs, tant que c'est bien.
Toute cette planification se fait en grande partie sur les réseaux sociaux où depuis le début de ce mois de février, les pages qui proposent des idées de cadeaux et soirées entre amoureux se disputent une clientèle qui ne cesse de s'élargir. Ces réseaux sont aussi des lieux où se forment de nombreux couples. Fatoumata Diarra, étudiante.
On peut rencontrer son âme sœur sur les réseaux sociaux. Beaucoup de mes copines ont rencontré leur âme sœur sur les réseaux sociaux et se sont mariées aussi. C'est possible de rencontrer son âme sœur sur les réseaux sociaux.
Si les réseaux sociaux offrent des opportunités et à ses avantages, ils ont aussi des inconvénients contre lesquels les jeunes disent prendre des précautions. Boubacar Sidiki Diakité d'Iben.
Vu qu'il y a des personnes qui utilisent d'autres comptes qui ne sont pas eux, même ils utilisent des faux comptes avec de faux noms, de fausses photos pour être aimés par d'autres gens. Donc ça peut être un inconvénient des réseaux sociaux.
Pour certains jeunes, la Saint-Valentin, c'est une journée d'amour pour son compagnon, mais aussi pour l'humanité. Kadijatou Keita, étudiante.
La Saint-Valentin, c'est pas pour une seule personne. Bon, c'est pas individuel, quoi. Mais de montrer son amour à tout le monde. Tu vois, de montrer son amour à tout le monde. De faire du bien, quoi. Et forcément aux pauvres.
En attendant que chacun mette ses tenues de soirée, s'offre des cadeaux, le rouge et le noir, les couleurs de l'amour ont déjà envahi Bamako et certainement les cœurs. Mohamed Danioko pour VOA Afrique, Bamako.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite. favorite work of art? Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde de Joselle Morissin, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.